Code Économie.
L'Afrique perd entre 5 et 15% de croissance de son PIB par habitant en raison du changement climatique et de ses effets connexes. Propos de Kevin Ourama, économiste en chef et vice-président de la BAD, c'était au Caire lors d'une table ronde organisée en marge du Forum d'Égypte pour la coopération internationale. Inauguration par le Premier ministre dimanche à Kananga du bac 9 construit par les ingénieurs de l'Office des routes. Ce bac, capable de transporter jusqu'à 10 tonnes, va assurer la traversée des personnes et des marchandises sur la rivière Lulua. Bienvenue à tous. L'Afrique perd entre 5 et 15% des croissances de son PIB par habitant en raison du changement climatique et de ses effets connexes. Le continent a besoin d'environ 1600 milliards de dollars entre 2022 et 2030 pour respecter ses contributions déterminées au niveau national. C'est le point de vue de Kevin Ourama, économiste en chef par intérim et vice-président du groupe de la Banque africaine de développement dans un communiqué de la BAD publié ce matin. Mardi, Kevin Ourama l'a dit le 7 septembre 2022 au Caire lors d'une table ronde organisée en marge du Forum d'Égypte pour la coopération internationale, forum placé sous le thème « Rôle des pays africains dans la détermination de l'agenda climatique ». Il a exhorté les pays développés à combler le déficit de financement climatique car collectivement, les pays africains n'ont reçu que 18,3 milliards de dollars de financement climatique entre 2016 et 2019. A affirmé M. Ourama. Il en résulte un déficit de financement climatique pouvant atteindre 1 288,2 milliards de dollars par an de 2020 à 2030. Ces montants traduisent la réalité de la crise. Le changement climatique affecte gravement l'Afrique alors que le continent ne contribue aux émissions mondiales qu'à hauteur de 3%, a souligné l'économiste en chef de la banque. Le Premier ministre Samalou Kondé a inauguré dimanche à Kananga, dans le Kasaï central, le bac 9, construit par les ingénieurs de l'Office des routes. Ce bac, capable de transporter jusqu'à 10 tonnes, va assurer la traversée des personnes et des marchandises sur la rivière Lulua, d'une rive à l'autre. Et à l'étape de Mbujimayi, au Kasaï oriental, où il est arrivé lundi, la problématique de la relance de la minière de Bakwanga, l'emploi des jeunes, la desserte en eau et électricité étaient les principales demandes des différentes personnalités qui ont discuté avec le chef du gouvernement. Parlons à présent du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qui porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs étrangers sur le sol congolais que la délivrance de la carte biométrique de travail pour étrangers qui avait repris depuis mars de cette année se poursuit. Mais comment obtenir la nouvelle carte? Alex Ntumba nous explique. Il est consultant de l'entreprise Sycamore qui travaille avec le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en sous-traitance.
Tout d'abord, il faut préciser que le processus de l'obtention de la carte biométrique des travail pour étrangers a repris depuis mars 2022. Alors, comment les étrangers résidant en RDC peuvent obtenir cette carte? C'est simple. Le requérant doit déposer son dossier au secrétariat technique de la Commission nationale de l'emploi des étrangers, CNEE en sigle, s'il est à Kinshasa. Et s'il est en province, il devra le faire à la division provinciale de l'emploi et du travail, moyennant 280 dollars. En ce qui concerne les 280 dollars, 150 sont à payer directement à la CNEE et 130 à l'entreprise Sycamore SARL qui est l'imprimeur attitré. Auprès de la CNEE, le versement est direct, mais en ce qui concerne Sycamore, le versement s'est fait strictement par voie bancaire à Robank ou Equity BCDC. C'est seulement lorsqu'on a versé l'argent et qu'on apporte les bordereaux des paiements qu'on pourra retirer les formulaires et avoir droit à l'impression de la carte. Les étrangers qui sont en province doivent entamer leur démarche auprès de la division provinciale de l'emploi et du travail et ensuite contacter l'imprimeur Sycamore SARL via courriel à capture.etps@gmail.com ou en appelant au 081 033 53 35 pour avoir toutes les précisions. Les centres de capture se trouvent au deuxième niveau de l'immeuble Photogui sur le boulevard du 30 juin en face de la Grande Poste. Les services sont ouvrables du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
La RDC commémore en décembre de cette année le 10e anniversaire de son adhésion à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OADA. En prélude de cet événement, le barreau de Kinshasa, Gombe, en collaboration avec la Commission nationale OADA, organise un colloque international ici à Kinshasa le 15 et le 16 septembre prochain. Le bâtonnier du barreau de Kinshasa, Gombe, lors de la conférence de presse lundi 12 septembre, journée commémorative de l'entrée en vigueur du traité et des actes uniformes en RDC, en 2012, a fait savoir qu'il était question d'évaluer cette adhésion et faire des projections sur les perspectives. Jean-Claude Mbaki dit comment le droit OADA a révolutionné le climat des affaires en RDC.
Vous savez, on peut tout dire, mais le droit OADA est venu révolutionner un peu notre droit des affaires, sincèrement. Je vous donne quand même un cas simple. Avant l'adhésion au droit OADA, pour créer une société par action, il fallait au moins 7 actionnaires. 7. Et en plus, il faut obtenir l'autorisation du président de la République. Vous voyez un peu comment le chef d'État qui a toutes ses charges, mais il faut attendre jusqu'à ce qu'il vous autorise. Aujourd'hui, c'est rapide. En matière de recouvrement des créances, on peut toujours... Il n'y a rien de parfait. Rien n'est parfait sur cette terre des hommes. Mais au moins, on sait que lorsqu'on veut recouvrer une créance, si vous avez un titre exécutoire, vous n'avez plus à faire des acrobaties comme ce fut. Donc ce sont bien les éléments que nous allons échanger tout le long du colloque pour voir si c'est vraiment un atout, c'est pas un atout, mais je crois qu'on ne peut pas regretter d'avoir adhéré à cette traité.
Écho d'économie.
Les initiatives de traçabilité et de certification de minerais ne bénéficient pas aux populations locales affectées par les activités minières. C'est l'une des conclusions du livre Minerais de conflit qui constate l'échec de la lutte contre les minerais dits de sang. Le chercheur Christophe Vogel, auteur de cet ouvrage qui vient de paraître, estime qu'il faudrait entre autres revoir la répartition du coût de la traçabilité et qui incombe à ce jour uniquement aux exportateurs congolais. Christophe Vogel est l'invité de l'économie. Ils s'entretiennent avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Christophe Vogel, bonjour.
Bonjour.
Votre livre constate l'échec des multinationales dans leur combat contre les minerais dits de sang. Quels sont les faits qui sous-tendent votre conclusion?
Il y a des programmes qui ont été mis en place depuis environ 10 ans. Ces lois, comme la loi américaine Dodd-Frank, les systèmes de traçabilité et de certification qui sont intervenus sur base de cette idée que les guerres au Congo sont uniquement à cause de l'exploitation minière, pour combattre ce qu'on appelle les minerais de conflit ou le commerce avec ces minerais. Et puis ce combat a été un peu vendu à la fois à la population congolaise, mais aussi au public international comme un peu la solution magique contre l'insécurité, les violences dans cette région. Et une décennie après la mise en place de ces initiatives, on voit plus ou moins que les statistiques de violation de droits de l'homme, des activités des différents groupes armés n'ont pas vraiment baissé. Deuxièmement, ces programmes ont été aussi vendus comme des programmes qui peuvent améliorer le social et la situation économique de la population qui travaille dans les mines et autour de mines. Et là, on constate aussi que, justement, en ce qui concerne le domaine de l'éducation, en ce qui concerne le domaine social de manière plus vaste, les populations n'ont pas bénéficié des promesses qui ont été faites dans le cadre de ces programmes RDC.
C'est très intéressant ce que vous dites hein, par rapport à la guerre, parce que ici, surtout à l'Est, on a toujours tendance à lier la guerre à l'exploitation minière. C'est assez intéressant de lire dans votre livre que la racine de la guerre n'est pas que l'exploitation minière, mais il y a aussi des facteurs exogènes et endogènes. Est-ce que vous pouvez les citer brièvement?
Oui, pour dire une chose, le début de la séquence des différentes guerres qu'on connaît aujourd'hui et qui n'a malheureusement pas encore pris fin, on peut la localiser en 1993. Pour ceux qui connaissent, il y avait une guerre dans le territoire de Masisi qu'on appelle la guerre de Ntoto. C'est un peu le précurseur d'une séquence d'autres conflits. Et puis, donc ça, c'était en 1993, lorsque le coltan et d'autres minéraux ont trouvé une importance plus grande pour la première fois uniquement en 1999. Donc 6 ans après, donc il est déjà au niveau de l'écart du temps, il est logiquement impossible que les minéraux sont au début et à la racine des guerres. Mais par contre, le livre ne dis pas que les minerais n'ont rien à voir avec la guerre. On sait tous que...
C'est une partie du problème.
C'est une partie. On sait tous aussi, pour faire la guerre, il faut des ressources, de revenus. Beaucoup de populations aujourd'hui savent exactement que des groupes armés qui existent aujourd'hui et certains qui ont existé dans le temps ne sont pas forcément dans les mines. Ils mettent des barrières routières, ils sont dans la taxation illégale, etc. Il y a certains qui font le makala. Du point de vue d'un groupe armé, ça ne joue pas un rôle prépondérant si l'argent provient des mines ou qu'il provient d'une barrière routière. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent pour financer la guerre.
Donc le problème est vraiment systémique. Pour terminer, vous dites donc que des systèmes de traçabilité ou la loi d'Haute-Franck, tout ça est contre-productif. Quelle est l'alternative que vous proposez?
Alors, je pense que d'abord, ces initiatives, ils ne sont pas contre-productifs en tant que tels, mais la manière dont ils ont été mis en place et implémentés est contre-productive, au moins en ce qui concerne le bien-être et le développement des populations ici. C'est pas du tout contre-productif pour ceux qui
s'approvisionnent. Et qu'est-ce qu'il faudrait revoir alors? Vous avez parlé du coût de la répartition de toutes ces initiatives.
Exactement. Alors, le coût de la traçabilité, peut-être pour répéter, c'est la traçabilité dont je parle, c'est essentiellement pour le coltan, la castérite et la wolframite, parce que...
Non, pour les 3T. Hein.
Les 3T. Puis ce système est de facto payé par les travailleurs et travailleuses congolaises. Parce que les multinationales, les entreprises ont simplement refusé de tenir ce système. Et je pense qu'il est très important d'avoir une émancipation de la RDC, de la population, mais aussi de... Et ça ne suffira pas. Il faut vraiment aussi essayer de faire des coalitions, d'être ensemble à travers peut-être l'Afrique entière, de faire face et de faire un lobbying qui ne fait pas les erreurs du passé.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève ce magazine économique. Merci à vous toutes de l'avoir suivi.